La Sexploratrice, présentée par Planetix. Devenez un aventurier du plaisir. Explorez vos fantasmes. Trouvez le produit adapté à vos besoins au meilleur prix. Planetix, 6 boutiques pour vous servir. Monplanetix.com.
I know how it sounds.
La Sex Exploratrice. Avec Mel Trudel.
La Sexploratrice.
Radio X.
Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de la Sexploratrice sur les ondes de choix. 98h Radio X, vous êtes à l'écoute de Mel et Max.
Ça commence bien.
C'est une drôle d'intro. Je suis tout mêlé, là, on est mardi
ça
déjà.
Ça fait longtemps là, qu'on est en onde. Écoute, ça fait quoi? Pas loin d'une semaine?
Là, 4 jours.
Ben, c'est ça.
Ouais, c'est ça, pas loin d'une semaine.
Des titans de pékis de 4 jours. Comment ça va?
Contente de te voir, ça va très bien.
Ouais, t'as-tu passé un beau week-end de Pâques?
Très beau week-end avec ma famille, mon amoureux. Oui, c'était parfait, c'est un beau week-end.
Ah, c'est
très
le fun, ça.
Très beau week-end de Pâques avec mon fils, puis ouais.
C'est un peu à ça que ça sert, Pâques aussi.
Ben, y a-tu vraiment des gens qui fêtent encore Pâques pour la...
La résurrection du Christ.
Voilà.
J'en connais pas beaucoup, moi, en tout cas.
Donc, non, ça a été un super beau week-end, toi aussi?
Ouais, non, ça a été le fun. Vraiment, un week-end en famille, tout en amour. On est allé dans un petit chalet dans le coin de Saint-Damas-de-Lillet, dans le fin fond du bois, on a mangé de la tire d'érable. C'était vraiment le fun.
T'as pris le traversier?
J'ai pris le traversier en fin de semaine. Je t'ai même envoyé un petit vidéo parce que t'es une... Ben oui, mais toi, t'es toujours sur le traversier. Là, on dirait presque que t'habites dessus.
C'est ma maison.
C'était fantastique. J'adore ça prendre le traversier. Mais je me demande si c'est pas plus court de prendre le pont pour arriver à la même place.
Mais non.
C'est un peu long, le traversier, t'embarques.
Ah, mais oui, ça dépend.
Mais rester sur la 3, ça va faire aller virer.
Tu comprends rien de ce qu'il dit.
Oh, oui, c'est ça. Moi, je calcule tout le temps. Moi, je suis à 8 minutes du traversier plus 12 minutes la traversée. Donc, c'est un 20 minutes.
C'est
plus
ça.
Me rendre à l'autre endroit. Donc, si par la voie, s'il n'y a pas de trafic, tout ça, puis que ça me prend 25 minutes de me rendre à la station, je vais prendre la route. Mais s'il y a du trafic le moindrement, je suis mieux par le traversier.
Ça va plus vite pour éviter le trafic.
Et voilà.
Mais j'ai adoré mon expérience. J'étais sur le fleuve.
C'est
j'avais
beau.
Le vent dans le visage. Ah, la belle vie.
Ben moi, sérieusement, c'est une activité que je faisais avec les enfants.
Une
quand j'étais jeune. Mais oui.
Ah oui?
On se promenait dans le Vieux-Québec, prend le traversier, va te promener au Quai Paquette. L'été, t'as la grande roue. Tu as plein de petites activités de l'autre côté. Crème glacée, tu reprends le traversier. Même le capitaine, des fois, il est cool. Tu peux monter le voir. Il veut montrer la cabine aux enfants et tout. C'est vraiment trippant.
À bâbord toutes!
Yes! Mesdames et messieurs, ce soir, on est en live sur TikTok de la Sexploratrice. Venez nous voir. Et également le 418-670-9098. On veut savoir d'où est-ce que vous nous écoutez, mais aussi interagissez avec nous. En fait, jeudi soir, en fin spécial... Andropause.
Ça, c'est la ménopause des hommes.
La ménopause des hommes, parce qu'on parle souvent de la ménopause de mesdames. Et vraiment, jeudi, là, je veux parler. Il y a quelqu'un qui nous a écrit là, qui est dépassé par les événements. J'ai lu beaucoup là-dessus. J'ai un autre livre qui s'en vient d'ailleurs là-dessus. J'ai bien hâte de lire davantage. Je suis en attente d'une réponse du docteur Jean Drouin, qui est spécialisé en andropause, qu'on risque d'avoir en entrevue. Et vraiment, messieurs, là, il y a des gens qui vont consulter pour des pensées, des idées noires, ça va pas, je manque de drive, j'ai plus d'érection matinale. Ça, c'est un des premiers signes d'andropause chez l'homme. T'as plus d'érection matinale depuis un bon moment, ça se pourrait que ce soit parce que t'es en andropause.
Ah ouais?
Oui, parce qu'on a vous avez un cycle, les gars, là?
Un cycle d'érection matinale?
Un cycle de sur 24 heures, là, votre testostérone, là, 20 heures le soir est à son plus bas, 4 heures du matin en moyenne est à son plus haut.
Ah, c'est pour ça qu'on se réveille toujours avec le mât dans les airs.
Voilà! Ah. Donc, si ça se passe pas depuis un bon moment... Va consulter. Et là, ce qui arrive, c'est que les médecins généralistes, ils ont 11 minutes pour te voir, hein, la RAMQ. Ils n'ont pas le temps là, de commencer à chercher. Fait que souvent, ils vont te prescrire des antidépresseurs. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est pour ça, souvent, qu'on entend des dames dire « Hey, moi, pour ma ménopause, c'est au privé que j'ai réussi à régler ça. » Puis, ils vont au privé et les médecins généralistes qui se spécialisent en...
Ils prennent plus
en hormonothérapie, ben souvent, ils vont... Ils vont s'en aller au privé. Donc, bref, je veux vos témoignages pour jeudi. Vous pouvez nous écrire la sexploratrice à commercial radioex.com via le 418-670-9098. Et pour le moment, on va tout de suite rejoindre notre invité.
Le doc.
Le thérapeute compatissant bienveillant.
Bonjour, docteur.
Le docteur Paul Simard, psychologue.
Docteur Paul Simard, psychologue.
Bonsoir.
Notre collaborateur hebdomadaire.
Salut, Doc.
Bonsoir.
Docteur Simard, toujours un plaisir de vous voir.
De quoi on va parler
ce soir? Ben là, en fait, on avait deux sujets là, primordiaux, hein, principalement, dont une question du public qu'on a reçue via la boîte à mail. Mais juste avant, Doc, il y a une nouvelle qui est sortie qui me fait réagir fortement. Puisque je connais des gens qui prennent ce médicament-là. Et on parle ici du singulaire. C'est un médicament qui aide à gérer l'asthme, les allergies et tout ça, et qui est administré là, chez beaucoup d'enfants. Et on se rend compte que le singulaire fait désormais l'objet de mises en garde et de précautions importantes par Santé Canada. Et c'est le type d'avertissement le plus fort qui existe au pays, là. On parle de symptômes dépressifs. On parle d'effets secondaires neuropsychiatriques, des idées noires, et même 82 cas qui aurait mené à des suicides, dont 19 chez des enfants. Ouais. Quelqu'un de mon entourage prend ce médicament-là depuis l'âge de 4 ans. Elle a aujourd'hui 14 ans. Elle est médicamentée par le singulaire, mais aussi pour anxiété, dépression et idées noires. Donc, elle est médicamentée en plus pour la dépression. Alors que, qui sait, peut-être que c'est dû à ce médicament-là. Aujourd'hui, Dr Simard, j'aimerais savoir, quand quelqu'un vient te consulter pour des idées noires, pour anxiété, dépression, je pense à m'enlever la vie. Est-ce que ça fait partie de... Est-ce que tous les psychologues font le tour un peu, demandent aux gens, est-ce que tu prends des médicaments? Est-ce que tu regardes un peu la liste de la médication?
Ce qu'on est obligé de faire comme psychologue, c'est une évaluation rigoureuse.
OK.
Mais ça ne veut pas dire que c'est exactement la même chose, une évaluation rigoureuse pour tous les professionnels. Il y en a qui vont faire passer des questionnaires, il y en a qui vont faire des entrevues plus structurées, il y en a qui ça va être un petit peu plus libre à l'auto-dévoilement.
T'es-tu en train de dire qu'il n'y a pas un schéma à suivre, il n'y a pas une méthode à suivre pour tous les psychologues?
Non, c'est ça. Il n'y a pas un absolu pareil.
C'est comme quand on va chez le dentiste ou au garage.
On pourrait dire qu'il y a une tendance.
Il ne devrait pas en avoir une méthode, justement, pour éviter les cas comme ça.
Oui, bien, c'est pour ça que le terme évaluation rigoureuse, ça, on est obligé de le faire. Mais la manière et le contenu, c'est variable. On a des formations continues qui nous obligent de l'apprendre, de se structurer, mais ça peut être quand même, ça peut prendre plein de formes. Comme moi, par exemple, je le fais dans une entrevue semi-structurée, c'est que je vais discuter avec la personne de toute sa manière de prendre soin de son mode de vie, et notamment si elle prend de la médication, si elle a eu des diagnostics médicaux. Mais ça, c'est dans un dépistage, on va dire, global. Puis oui, ça arrive que des gens vont me parler d'un portrait de médicaments complexes.
Et toi, tu as des connaissances pharmaceutiques là, qui peuvent parfois te mener à... OK, oui, ça, effectivement, ça peut apporter son lot d'idées noires. Donc, ce qui est triste dans le cas du singulaire, c'est qu'il n'y a pas d'autres médications qui peuvent offrir ce soulagement-là. Mais, tu sais, pensez-y deux fois, là, avant de le consommer. Là, ça fait vraiment partie, là, c'est la première fois là, que c'est...
La meilleure personne, c'est les pharmaciens qui sont les mieux placés pour vous expliquer les conséquences d'un médicament.
Vraiment. Et
en même temps, on ne peut pas garantir l'apparition chez toutes les personnes des effets secondaires.
Ben non, on est tous différents.
C'est des tendances, c'est ça.
Sur 4000 déclarations d'effets indésirables en lien avec le singulaire, il y en a 3116 qui étaient sérieux. C'est énorme. C'est énorme. Donc, je ne sais pas si on a des auditeurs qui prennent ce médicament-là et qui ont remarqué un changement, mais peut-être que d'aller consulter votre pharmacien ou votre médecin là, en lien avec ça, ça pourrait aider. On va tout de suite aller vers la boîte à mail pour la question du public.
Envoie ton message. Belle, vous y répondre.
Ding, ding, ding! Qu'est-ce qu'on peut bien lui répondre à elle?
Bienvenue dans la boîte à mail.
La boîte à mail, on adore vous lire. Merci beaucoup. C'est via la sexploratrice à commercial radiox.com ou via la sexploratrice.com, finalement. Vous avez directement, via le site Internet, accès à notre boîte aux questions à Dr Simard et la sexploratrice. J'ai quelqu'un, en fait, qui me parlait justement là, de l'andropause. Donc, c'est vraiment jeudi qu'on va en parler. C'est quelqu'un qui est dépassé, là, son comportement, sa façon d'être, sa libido. Tout ça, là, c'est épouvantable. Donc, on va en parler jeudi soir. Et ça, c'en est un autre cas auquel tu dois faire face à l'occasion. Tu sais, des gens qui ont des débalancements hormonaux, qui te consultent.
Oui, c'est ça. Mais moi, je les recommande beaucoup vers les médecins spécialisés là-dedans parce que je dois reconnaître la limite de mon champ de compétences comme psychologue. c'est pas parce que je connais, par exemple, des molécules et qu'est-ce qu'ils font psychologiquement que ça appartient à mon champ professionnel d'en recommander. C'est ça. Donc, c'est important de créer un filet de sécurité multidisciplinaire, plusieurs sortes d'intervenants quand vous avez un portrait clinique complexe.
Mais oui, absolument. On a une autre question qui est entrée via la boîte à mail. Allô, Mel, bravo pour votre belle émission. Merci.
Merci beaucoup.
Tu disais qu'écouter de la pornographie pouvait donner un effet à long terme. J'ai de la difficulté à avoir des relations dans la réalité. Comment faire?
Un effet positif ou négatif?
D'après, c'était négatif.
Okay.
À long terme. En fait, honnêtement, je crois pas que ce soit négatif à long terme d'écouter de la pornographie si c'est fait de façon modérée. Si c'est pas quelque chose dont tu as absolument besoin pour alimenter ta libido ou pour t'exciter, pour réussir à avoir une relation sexuelle dans la réalité, si ça vient qu'à remplacer tes relations sexuelles avec ton ou ta partenaire, là, je pense qu'on a peut-être un problème.
Je pense que c'est comme tout. Là, si tu vas manger aux patates plus à tous les jours, il y a des bonnes chances que tu verras baise. Mais si tu y vas une fois de temps en temps, ça peut faire partie d'une routine et d'une diète équilibrée.
C'est ça. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'en effet, ce n'est pas une expérience qui va garantir un effet sur le cerveau. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'une grande exposition à une source de plaisir intense, de façon répétée, ça fait en sorte que le cerveau, il va s'ajuster à cette zone de plaisir-là intense. D'une certaine manière, on pourrait dire que notre cerveau, il se dit « Hey, wow, c'est pas normal d'avoir autant de fun, là. Je suis en train de perdre mon jugement. » Fait qu'il diminue le seuil de sensibilité au plaisir. Fait que c'est ce qu'on appelle l'hyposensibilisation, moins sensible. Puis là, pour avoir le même effet qu'avant, la personne, elle va augmenter sa consommation de pornographie bien souvent ou elle va aller vers des choses un peu plus kinky, un peu plus intense, un peu plus hard. Puis là, à un moment donné, ce mécanisme-là se met en branle puis elle essaie de revenir vers ce qu'on avait appelé une sexualité vanilla, c'est plus standard, classique. Puis elle va dire, on dirait que ça ne m'excite plus. Ben, c'est parce qu'elle a trop vécu des hauts niveaux de stimulation puis elle s'est habituée à ça avec l'hyposensibilisation.
Je comprends. Et quand tu parles d'habitude, en fait, ça peut être même avec des applications de rencontres.
Bien sûr, toute forme de stimulation plaisir, ça peut être avec les applications de réseaux sociaux également.
Et oui.
Tout ce qui est plaisant et intense, notre cerveau, il dit tape, le wow.
OK.
Là, il fait baisser la sensibilité. Ça, c'est la même chose avec la drogue. Fait qu'on devient très, très intolérant ensuite avec une stimulation standard.
Et là, monsieur ici, bon, se rend compte qu'il y a un problème parce que, bon, à partir du moment où tu te rends compte que ça crée un problème, je pense que tu as déjà un bon pas de fait.
Oui.
Ce qu'il doit faire, en fait, c'est de tenter de se sevrer. Tu as soulevé des points intéressants, en fait. Faudrait lui recommander une réflexion pour faire un choix.
Exact, parce que contrairement à ce que les gens pourraient penser, il ne faut pas systématiquement dire à une personne « Arrête d'écouter de la porn ».
Oui.
C'est pas vrai.
Ça prend est-ce qu'on doit faire un sevrage?
Pas forcément.
OK.
Parce que quelque part, la personne, est-ce qu'elle souffre de sa pratique? Est-ce qu'elle est rendue à travailler son problème avec la consommation? Il y a des gens qui sont pas prêts encore, là.
Est-ce qu'une personne peut en venir à penser qu'elle a un problème alors qu'elle a juste une vision erronée du problème qui l'habite, puis en réalité, c'est pas un problème?
Ben oui, il y a des gens qui vont amplifier les réactions, un peu comme les troubles psychosomatiques. Les gens vont scruter leurs sensations physiques, puis en scrutant les sensations physiques, là, tout d'un coup, ça fait qu'ils sont tendus, puis là, ils disent « je sens une crampe ici », puis là, bref, c'est un mécanisme de type de scrutation, d'amplification. Puis, donc, il y a des gens qui vont le faire également avec toutes les autres formes de troubles. Ils vont dire « il me semble que je suis anxieux, là. Ah oui, je le sens, je suis anxieux. » Donc, ça prend beaucoup d'éducation pour reconnaître les stimulations normales.
Puis il y a peut-être même aussi le conjoint ou la conjointe qui peut mettre de la pression par rapport à ça.
Oui.
Si, par exemple, quelqu'un écoute de la porno une, deux fois par semaine, madame ou monsieur n'est pas content, bien là, la personne peut se sentir mal puis dire « j'ai un problème, j'écoute de la porno une, deux fois par semaine. » Alors qu'en réalité, c'est peut-être pas si pire que ça. Tout dépend aussi de la vision et de l'importance, en fait, de la présence de la pornographie dans le couple. C'est important d'en parler, ça aussi. Il y en a qui voient ça comme de l'infidélité.
Ouais.
C'est un peu fou, ça.
Comment ça, beaucoup fou, moi, je trouve.
Comment ça? Ça peut l'être. S'il y a eu une entente initiale sur l'exclusivité des échanges de fantasmes, il y a une trahison, là, s'il y a ça. Pas systématique.
Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est possible de demander à un partenaire une exclusivité de fantasmes?
C'est possible de le demander, mais c'est rarement facile à contrôler.
Mais c'est impossible à contrôler.
Mais
tu
ne
peux
gens...
pas contrôler les pensées de ton partenaire.
Non, mais il y a des gens qui vont le consentir de manière de bonne foi en disant « D'accord, mon amour. »
D'accord, mon amour, je ne regarderai plus de pornographie.
Ouais.
C'est-tu d'entendre qu'on a entre nous deux. Est-ce que tu trouves que c'est sain ou malsain d'inclure de la pornographie dans un couple?
Non, je pense pas qu'il faudrait être classé comme ça. C'est parce que ça rentre beaucoup dans les jugements de valeur puis dans les choix de l'individu. Fait que de classer ça en sain, pas sain, la seule porte que je pourrais saisir, c'est au niveau de la grande stimulation. Est-ce que cette stimulation-là empêche ou réduit d'avoir du plaisir d'autres manières ou sans? C'est ça, c'est ce qu'on appelle, dans toutes les formes de dépendance, là, une réduction du champ d'expérience.
Mm-hmm.
La personne, elle va se mettre à mentir même sur sa consommation. Elle va faire sans cachette, elle va aller exclusivement vers ça. Elle va comme fantasmer de manière très rigide là-dessus. Puis là, ça crée de la détresse à un moment donné. Fait que s'il n'y a pas de détresse, qu'il n'y a pas de souffrance, c'est pas le comportement lui-même qu'on va essayer de changer, mais plutôt faire réfléchir la personne. Qu'est-ce que tu veux en faire de ta pratique de consommation de la pornographie? Es-tu prêt à changer? Parce qu'il y a des gens qui disent, ben t'as peu, je vais essayer quelque chose là, avant d'essayer de le traiter.
Puis est-ce que, OK, fait que ça peut vraiment être considéré comme étant de l'infidélité que d'écouter de la porno dans le dos de son conjoint, sa conjointe,
pour certaines
si ça a
personnes,
été discuté au départ, si ça n'a jamais été discuté, je veux dire...
Ouais. Mais un peu comme la compersion ou l'aisance sentimentale, il y a des gens qui vont l'avoir plus naturellement, l'ouverture à ça, puis il y en a d'autres qui vont avoir plus de fermeture ou de blessures affectives.
Et qu'est-ce que tu dirais des gens qui sont jaloux des jouets sexuels de leur partenaire? Est-ce que tu trouves que c'est sain ou malsain?
Ben, c'est comme considérer le jouet ou l'accessoire un peu comme une personne.
Oui, c'est ça.
Fait que ça, c'est de la
rivalité. Ça apporte une sensation... qui ne peut être reproduite par une main.
Mais parfois, c'est comme s'il y a une personne qui pourrait se sentir dépossédée du plaisir que l'autre personne a avec ses accessoires sexuels. Parce que là, c'est plus partagé, puis là, alors que ça serait souhaité.
Puis j'ai l'impression aussi que ça peut paraître et ça peut avoir l'air comme un aveu de défaite chez plusieurs personnes. C'est-à-dire que le jouet vient remplacer quelque chose que l'autre personne n'est pas capable de faire.
OK. Moi, je vous dirais, soyez pas jaloux. En fait, faites-le ensemble.
Ouais.
Quitte à ce que vous développiez une relation.
C'est pas toujours possible. Parce que la sexualité est un sujet intime.
Oui, effectivement.
Et porteur de beaucoup de blessures. Fait qu'il y a des gens qui vont préférer vraiment séparer leur vie sexuelle masturbatoire, leur vie sexuelle fantasmatique, puis leur vie sexuelle avec leur partenaire. Puis il y a même pas de pont entre les trois, là. Pourtant, c'est la même personne. Parce qu'il y a des blessures, il y a des traumas, il y a des peurs, il y a des dégoûts, des fois. Il y a des craintes du jugement. Fait que c'est tellement fragile, là, l'aspect de la sexualité et de l'ouverture à l'autre, que faut être parfois très patient.
Même la masturbation, il y a des gens qui voient ça aussi comme une compétition ou de l'infidélité que de se masturber.
Ouais.
Ben, c'est effarant là, quand on regarde la place de la femme dans la société puis depuis combien de temps elle se masturbe. Ça fait pas si longtemps que ça là, que c'est accepté dans les normes sociétales puis que c'est bien vu que la femme se donne du plaisir par elle-même.
Oui, mais il y a des femmes qui sont contre le fait que leur conjoint se masturbe. Ouais.
En plus.
Elle.
En plus.
Moi, ce que j'observe souvent en clinique, c'est beaucoup plus au niveau de l'écart, de la réciprocité que ça a un impact. C'est quand il y a un partenaire qui sent que l'autre n'est pas autant allumé que ce qu'il voudrait, puis là, il apprend que l'autre se masturbe.
C'est ça, là où il y a un problème.
Ça crée une blessure de manque de réciprocité. Puis le piège, ce serait de faire un traitement mécanique seulement, en disant, bon, ben là, tu vas te priver de te masturber, tu ne seras plus telle affaire. Mais c'est pas là qu'est le vrai problème.
C'est qu'il y a un manque.
C'est au niveau de la place à l'intérieur de soi, du besoin de l'autre et de la capacité d'échange.
Oui.
Puis cet élément-là de réciprocité, c'est majeur dans la qualité des soins de la santé conjugale.
Vraiment. Écoute, il y a quelqu'un qui nous écrit sur le live, je trouve ça super intéressant. C'est en lien avec l'usurrection.
Oui.
Je fais du diabète et avec l'ajout de médication pour la pression, j'ai perdu mes érections, même avec du Cialis. Oui, c'est ça qui arrive. La médication, souvent, là, ça peut physiologiquement apporter un sérieux problème. Mon médecin dit qu'il n'y a rien à faire. Ma conjointe m'a quitté après 20 ans. Je croyais que c'était moi le problème, mais j'ai rencontré une autre femme et mes érections sont revenues. Est-ce que tu penses que ça peut être en lien justement avec le cocktail physique et chimique des débuts de relation, l'oxytocine, tout ce qui embarque en début de relation, les phéromones et tout?
Il y a peut-être aussi l'absence de pression de la nouvelle relation.
Oui.
Parce que c'est pas la même chose... un acte sexuel partagé et faire l'amour. C'est d'en faire l'amour, il y a une rencontre amoureuse, il y a de la réciprocité affective, il y a se soucier des besoins de l'autre. C'est peut-être un peu moins animal aussi que ce que c'est dans les premiers échanges.
Ça, c'est vrai. Hein? C'est pour ça que souvent, j'ai déjà lu en fait que les hommes qui ont des maîtresses ou des femmes qui ont des amants, c'est beaucoup plus passionnel, beaucoup plus intense.
La nouveauté rime toujours avec effervescence.
Et ce, malgré l'amour qu'ils portent pour leur conjoint et leur conjointe.
Oui, ça arrive.
Donc, c'est vraiment... D'ailleurs, j'ai lu ça aussi dans La biologie de l'amour de Romain Gagnon.
Qui va excellent venir. Livre.
Excellent livre, d'excellentes références, dont la préface est faite par Yvon Dallaire.
Le seul et l'unique.
On va tout de suite aller à la pause avant d'enchaîner avec notre sujet principal, Dr Simard.
Oh yeah.
Yeah! Vous êtes nombreux sur le live TikTok. Merci beaucoup. J'ai maintenant une modératrice, donc vous pouvez poser vos questions, mais idéalement, composez le 418-670-9098 pour nous appeler si vous avez des questions, si vous voulez commenter ou nous écrire le 418-670-9098. Vous êtes à l'écoute de la Sexploratrice sur les ondes de choix 98h Radio X.
La Sexploratrice.
La Sexploratrice.
Avec Mel Trudel, Radio X.
De retour avec Mel, Max et Dr Paul Simard, psychologue. Vous écoutez La Sexploratrice sur les ondes de choix 98h Radio X. Il y a beaucoup de gens là, qui commentent sur le live 88-670-9098. Merci beaucoup pour votre belle présence et d'être à l'écoute. Docteur Simard, on voulait parler en fait ce soir de la construction de l'identité. Mm-hmm. Puis ça, c'est un sujet qu'on avait commencé à aborder lors de ton dernier passage. Mais première question, pourquoi est-ce que prendre soin de soi, c'est si difficile?
Ah ben ça, c'est parce que ça provoque toutes sortes de dilemmes à l'intérieur de nous, hein, puis de résistance. Parce que prendre soin de soi, ça crée un apaisement, mais changer une habitude, ça, c'est un stress adaptatif. Fait que là, dans le fond, je suis pris, là. Je veux changer quelque chose, je veux améliorer quelque chose, puis là, en même temps, je me trouve à mi-chemin entre l'apaisement puis le stress. Mais c'est pas tout le monde qui va être capable de le résoudre, ce dilemme-là, de la même manière.
Mm-hmm.
Fait que là, il va falloir fouiller dans nos repères, dans essayer de résoudre le dilemme. C'est là qu'une bonne connaissance de nos valeurs, d'habitude, ça va beaucoup nous aider. Mais malheureusement, ce que j'observe, moi, en clinique, c'est que lorsque les gens font face à un dilemme, qu'ils n'arrivent pas à percevoir la valeur du changement, bien, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont retourner dans leurs habitudes, dans leurs patterns. Parce que ça, c'est plus, on pourrait dire...
Réconfortant?
Oui.
Comme c'est une zone connue.
Familier.
C'est familier, alors que même si on sait qu'on devrait faire autre chose, ça nous amènerait éventuellement vers du bien. C'est de l'inconnu, donc on préfère pas y aller.
C'est comme un trou de boîte préféré. Mmh. Qui fait que la personne va retourner dans son confort chaleureux de trou de boîte préféré plutôt que d'oser le changement. Parce que c'est difficile, oser le changement. Ça demande beaucoup d'énergie.
Vraiment.
Ça déclenche un mécanisme, notamment, là, qui s'appelle l'aversion à la perte chez l'être humain.
L'aversion à la perte.
Ouais, c'est une erreur de raisonnement qui fait en sorte que, d'habitude, on va mobiliser des efforts pour aller chercher un gain. Il faut qu'il soit au moins deux fois supérieur à la perte que je vais perdre. Là. Mais perdre une habitude, ça veut dire que ça déclenche des mécanismes de préservation dans l'habitude, même si elle est malsaine. Alors qu'on t'offre de quoi de bon, là?
Oui.
Donc, c'est l'aversion à la perte. C'est difficile de changer.
Parlant d'habitude, pour instaurer une habitude, on parle de combien de temps? C'est quoi? C'est 3 semaines, 21 jours à peu près?
Ben, ça dépend au niveau de la fréquence des répétitions. Ça dépend au niveau de la complexité de l'habitude. Mais moi, j'aime bien résumer, là, inspirer les gens. Là, je leur dis que de manière générale, on pourrait se dire, si tu pratiques à tous les jours, que tu dors très bien et que tu as un mode de vie pas trop stressé, en effet, dans 3 semaines, ça va être pas mal une nouvelle habitude créée. Sauf que vu que c'est pas tout le monde qui pratique tous les jours, on double le temps. Fait que c'est plus 3 semaines, c'est rendu 6 semaines. Vu que beaucoup les gens sont stressés, on double le temps, c'est rendu 3 mois. Puis vu que les gens ne dorment pas toujours bien, on est rendu plus à 6 mois. Puis là, on est pas mal dans les chiffres standards là, de la modification de l'humeur générale. Ça prend entre 6 mois et 8 mois. Là. Les gens ont des variations d'humeur d'habitude.
Puis tantôt, tu parlais de l'habitude à la sérotonine, à la drogue que procure tout ce qui procure du plaisir, finalement.
En fait, c'est les circuits dopaminergiques.
OK. Est-ce que c'est ce qui est en lien aussi avec l'adaptation hédonique? Tu sais, de toujours revenir à... C'est que peu importe ce qu'on va vivre, que ce soit gagner le gros lot, une nouvelle job, une nouvelle voiture, au bout d'un certain temps, l'adaptation hédonique arrive. On s'habitue, on a besoin d'encore plus. C'est en lien avec ça? Ou?
D'une certaine manière, oui. C'est comme la gestion de l'abondance. Est-ce qu'on quitte le monde de la survie? Puis comment on va gérer l'abondance? Ça, c'est quelque chose qu'on observe bien chez les gens qui ont des augmentations de revenus. Il y a comme un mindset qu'il faut qu'il change à différents paliers de revenus. Parce que c'est sûr que quand on est très, très pauvre et qu'on a de la misère à subvenir à nos besoins quotidiens, notre logement, notre nourriture, bien, tu te fais te proposer d'avoir plus d'argent. Tu vas te dire, oui, je vais être beaucoup plus heureux. C'est vrai, ça soulage un vrai problème. Mais passer un certain seuil, là, quand tous tes problèmes sont réglés, que tu as essayé d'avoir le chalet, les activités quotidiennes, les voyages, tout ça, même si on te donne plus d'argent ou plus d'opportunités, ça fait pas plus de fun.
Puis il n'y a pas un certain montant, il me semble, là, une échelle salariale où tu es bien. C'est bon, t'es anxieux en bas de temps.
Ouais.
Entre temps et temps, t'es quand même bien.
Il y a quelques années, c'était entre 80 000 et 140 000. Il n'y avait plus vraiment beaucoup de différence.
OK, mais au-dessus de ça, là, c'est le retour de l'anxiété et tout, parce que plus
ça
tu gagnes...
Ça crée un nouveau problème.
C'est ça, exactement.
Il faut un nouveau changement de mindset à ce moment-là. Il faut le mindset investisseur. Voir l'argent comme étant une information et non plus quelque chose qui répond à un besoin.
Je comprends.
Il y a des parallèles à faire aussi avec l'abondance, mettons, en dating. Il y a des gens qui vont rester pris là, dans une espèce de besoin de rencontrer, puis ils enchaînent toujours la même affaire. Mais s'ils changent leur mindset, ils vont peut-être changer le type d'expérience qu'ils ont dans la rencontre.
Essayer quelque chose de différent pour obtenir des résultats différents.
Oui.
C'est Einstein qui
dit
ça.
Non, je ne l'ai pas connu.
En fait, il caractérisait la folie en disant ça, c'est ça, si je ne m'abuse. Il disait toujours faire la même chose en espérant un résultat différent.
Oui, c'est ça.
C'est la folie.
Quelque chose comme ça, ouais. Exactement. OK, puis... OK, ben c'est super intéressant, en fait. Moi, ça me fascine, adaptation hédonique, sérieusement.
Oui, c'est vrai que c'est intéressant.
Vraiment, tu sais, tu peux passer... Puis c'est la même chose pour la tristesse. Là. Si tu vis un événement qui est traumatisant, qui est triste, tout ça, l'adaptation hédonique va faire en sorte que tu vas revenir inévitablement à un état stable.
Ben, c'est pour ça que tout l'ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec là, t'sais, est beaucoup basé là-dessus, sur aider les gens dans leurs mécanismes et des stratégies d'adaptation.
Mm-hmm.
Fait qu'ils font un travail incroyable, ces collègues-là. Je pense que c'est sous-estimé au niveau de la population, l'aide qu'ils peuvent apporter.
Vraiment. Et si on y allait maintenant avec la construction de l'identité?
Ouais.
Allons-y.
Savais-tu que c'est multiple?
Ah, non!
On est rendu un peu dans une mode où on entend sur les réseaux sociaux que les gens peuvent définir leur identité en fonction de comment ils le souhaitent.
Ha, ha, ha!
Mais la réalité, c'est que...
Est-ce que ça part vraiment de l'enfance, tout ça?
C'est complexe, en réalité. C'est multidimensionnel, l'identité. Ce n'est pas seulement le fruit d'une affirmation individuelle. C'est co-construit.
Co-construit.
Ouais, ça veut dire que ça se construit dans notre interaction avec l'environnement, notre identité.
Hmm.
Fait qu'il y a une partie à l'intérieur de moi, comme par exemple, il y a des gens qui vont s'identifier à leur culture nationale dans laquelle ils habitent. Il y a d'autres personnes qui vont s'identifier à leur couleur de peau. Il y a d'autres personnes qui vont s'identifier à leurs sentiments. Il y a des personnes qui s'identifient à leur profession.
À une passion.
C'est ça. Mais la construction de ça, c'est vrai qu'en psychologie, il y a certains modèles qui nous permettent de réfléchir là, à des grandes étapes.
Ça pourrait-tu créer des différends dans un couple, ça? Quelqu'un qui s'identifie à tel truc, puis l'autre tel truc, puis...
Oui, parce que ça pourrait bloquer la réciprocité sur certaines choses.
Oui.
Moi, je le vois notamment avec une phase, dans le fond, les 4 I de l'identité.
Oui.
Je vais les dire rapidement, puis on les couvrira. C'est l'incorporation. Donc, je suis ce que je rentre dans ma bouche, ce que je mange. Les vieilles théories freudiennes. Ensuite, il y a l'introjection. Donc, je suis ce qu'on me dit que j'étais. Comme les parents.
L'introjection.
Ouais, fait que les parents qui disent là, t'es une petite fille, là, quand tu parles pas, là, t'es correct. Là, sois une petite fille sage, t'es une petite fille sage. Fait que là, la petite fille qui était une grande expressive restreint ses émotions parce qu'on lui a dit qu'elle était une petite fille sage, dans le fond. Fait que là, elle apprend à restreindre ses émotions très tôt dans la vie. C'est dans la phase d'introjection. Puis ça, c'est appris jusqu'à la disparition du Père Noël et de la fée des dents. T'sais, parce que l'enfant, il apprend plein de choses là, avant 6 ans, hein, mais il n'est pas en mesure de faire preuve d'esprit critique. Il n'est pas capable de dire t'as peu, c'est pas vrai ce que tu me dis là. Fait que là, il introjecte à l'intérieur de lui ce qu'on lui dit qu'il est.
À l'histoire du bonhomme 7 heures, puis tout, là.
Mm-hmm.
C'est-tu mauvais, ça, de faire croire ça aux enfants?
Moi, je pense que ça alimente un certain imaginaire jusqu'à un certain point.
Moi, je pense que ça fait peur.
Ben oui, ça fait peur à certains.
Puis, si, en bas de 5 ans, l'enfant, il n'est pas capable de faire la différence entre fais-tu peur pour de vrai ou tu fais peur pour de faux pour jouer? Là, il n'y a pas encore la capacité de ce truc. Ça les terrorise pour de vrai.
Ouais.
Moi, je ne recommanderais pas de jouer avec ce bouton-là.
Bon, prenez ça en note. Là.
Ouais, moi non plus. On dirait que le jour où je vais avoir des enfants, je n'irai pas sur cette table-là. Mais est-ce qu'on peut dire qu'en conséquence, l'identité, c'est une représentation du soi qu'on se fait qui pourrait accommoder la réalité?
Oui, d'une certaine manière. Ça pourrait être dans les multiples définitions de l'identité.
Max, le philosophe.
Parce qu'on a plusieurs identités. On a l'identité propre, on a l'identité sociale.
Ouais, ça,
une des
ça.
Grandes questions que moi qui me turlupine là, depuis des années, là, c'est est-ce qu'on est, puis je vais te la verbaliser comme ça, là, sommes-nous qui nous sommes ou sommes-nous la somme de ce que les autres pensent que nous sommes? Mm-hmm. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de savoir vraiment qui on est ou on existe juste dans le regard de l'autre?
C'est co-construit, ça se mélange les deux ensemble. pour ça qu'il faudrait faire attention à quelqu'un qui ne prend qu'un seul camp. T'sais. On n'est pas seulement le fruit de notre culture et on n'est pas seulement le fruit de notre intuition personnelle.
Mais là, d'être la somme de ce que... la somme de ce que les autres voient de nous, là,
ouais.
Ça veut dire... Mais non, ça peut pas. Ça veut dire que tu vivrais que dans le regard des autres.
Il y en a beaucoup qui sont comme ça.
Il y a même un terme pour définir ça, on appelle ça la personnalité. C'est un peu influencé par notre tempérament. Le tempérament, ça serait biologique, ça. Mais dès qu'on commence à avoir des expériences, qu'on modèle nos apprentissages, on développe notre ego, ben apparaît la personnalité qui est co-construite dans notre adaptation à l'environnement.
Avez-vous déjà entendu je me rappelle pas comment le dire exactement, mais on serait la somme des 5 personnes qui nous entourent.
Ouais,
que c'est vrai, ça?
Ça, c'est la fonction de l'imitation ou la contagion sociale. Ouais.
Donc, en se tenant avec des entrepreneurs, des gens qui prennent soin de leur santé, tout ça, tu deviens inévitablement...
riche. Ben pas... Et en santé.
Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font faillite, en réalité.
Oui, c'est ça la fin. Mais, c'est quoi la distinction entre la personnalité et l'identité, alors?
Mm-hmm. C'est que dans les nouvelles mesures de la personnalité ou des perturbations de l'identité, dans le DSM-5, qui propose des nouvelles manières de le mesurer comparé à l'ancienne, qui fonctionnait par catégorie. Et dans la nouvelle, il y aurait des mesures de l'identité, comment la personne affirme qui elle est et comment elle se construit dans le regard des autres aussi.
Mm.
Ça me semble une nouvelle manière de parler de personnalité qui est beaucoup plus ajustée que y aller en disant « C'est-tu un trait pathologique ou pas? »
OK. Puis là, on a-tu d'autres « i » que ça vient?
Incorporation, introjection. Le troisième « i », ça serait l'identification. Ça, c'est quelque chose qu'on voit apparaître notamment avec l'adolescence. Tu sais, quand ils mettent des posters de leurs fans sur les murs, là. Bon, ben c'est que l'identification, ils cherchent des modèles et des contre-modèles. Puis ils vont dire, moi, je veux être comme telle personne, puis je veux surtout pas être comme telle personne. Puis on le voit dans les écoles, il y a une espèce de stigmatisation où dans laquelle on voit les poils contre les rockers. Puis il y a des camps qui veulent plus se parler l'un l'autre parce qu'ils s'identifient à des modèles différents. C'est un modèle normal à l'adolescence, mais qu'il y a des gens qui vont rester pris dans ce stade-là toute leur vie.
Hmm. Ah ouais.
Est-ce que ça nous éloigne pas de qui on est fondamentalement?
C'est quoi ça, qui on est fondamentalement?
Mais je pense que personne ne sait vraiment qui il est fondamentalement. Mais par exemple, si on s'approprie à une race ou à un pays ou à un modèle qu'on affiche sur nos murs de chambre par le biais d'un poster, est-ce que ça nous éloigne pas vraiment de qui on est puis ça nous empêche de faire l'introspection nécessaire pour devenir qui on devrait être au lieu d'être influencé par des... partie extérieure?
Ben, c'est des questionnements qui sont tellement présents depuis longtemps dans l'histoire de l'humanité là, qu'il y en a notamment des traces en Grèce, là, 500 ans avant Jésus-Christ, là, sur le temple du fronton d'Apollon. C'est écrit « Connais-toi toi-même ». Ça veut dire que les gens qui venaient chercher une sagesse de l'oracle là, pour être illuminés par le savoir du Dieu, là, quand ils rentraient, la première affaire qu'on disait, c'était pas genre « je vais répondre à ta question », c'était « commence donc par te connaître toi-même, puis là après ça, tu vas peut-être poser des bonnes questions ». Ah, fait que la réflexion sur soi, c'est quelque chose qui est encouragé depuis vraiment des millénaires.
Oui.
Mais c'est un puits sans fin.
Ben en fait, ben c'est que tu peux...
Bon, il y a des gens qui s'y noient, en effet. Oui, des gens qui deviennent constamment en train de creuser dans un abysse.
On en voit des gens qui se trouvent toujours de nouvelles passions, des nouveaux modèles, de la nouvelle musique à écouter. C'est comme si c'était jamais assez. Ouais. Mais est-ce que ça fait nécessairement des gens qui n'ont pas d'identité à eux? Non.
Non, non. C'est pour ça que c'est multiple. Il ne faudrait pas penser que c'est un absolu. Puis faudrait faire des parallèles sur qu'est-ce que la conscience de soi.
Ouais.
Fait qu'il y aurait des aires cérébrales associées avec la conscience de soi qui seraient dans les mêmes aires associées avec les sentiments. Fait que la conscience de soi, ça serait un sentiment altérable. Pourtant, moi, je suis convaincu que je suis moi-même. Mais c'est quoi ça, soi-même? Est-ce que je suis mon corps? Si, mettons, on me coupe un orteil, je suis moins moi-même? Oh! Fait que là, c'est toutes les réflexions qui ont été poussées dans le courant qui s'appelle le transhumanisme, puis notamment avec la présence d'implants. Fait que si j'ai un implant, mettons, qui m'aide là, au niveau de mon genou, je suis un cyborg moins humain? Jusqu'à quel point je peux remplacer des morceaux, puis je suis encore moi-même?
Mais on est-tu conscient de qui on est ou la grande partie de ce qu'on fait se fait inconsciemment? Donc, on vit un peu dans notre inconscient et donc on serait pas conscient du tout de qui on est?
Oui, c'est parce que la production de la conscience, comme ça dépend à quel niveau qu'on va la conceptualiser. Puis là, je vous ai présenté un modèle. Puis un modèle, là, c'est un raccourci résumé imparfait. C'est pas une vérité absolue. La psychologie, c'est une jeune science. C'est encore très imparfait. Donc, il faut toujours faire des petits entre guillemets là, quand on aborde ce genre de théorie-là. Il n'y a pas d'absolu.
Mais il n'y a pas d'absolu. Puis on voit, j'ai vu là, justement sur les réseaux aujourd'hui, quelqu'un qui parlait justement des féministes. C'est qui débattent puis qui veulent bon la cause des femmes et tout, mais qui dans l'intimité adorent être soumises et se faire dominer et se faire maltraiter.
Ouais, les suffragettes, ça prend le bord. Là,
à partir de là, est-ce qu'elle perd nécessairement une partie de son identité? Parce que c'est un peu ça. Là.
C'est là où justement on a des volets complexes de notre identité de nous-mêmes. Il y a des gens qui peuvent très bien être allumés par des choses qu'ils ont en horreur moralement.
On a un autre I qui s'en vient.
Oui, le dernier I dans ces théories-là, après incorporation, introjection, identification, ça serait l'individuation.
Oui.
Ça, l'individuation, c'est la capacité de se définir non plus par ce que je me mets dans la bouche, non plus par ce qu'on me dit que j'étais, non plus par mes modèles, mes mentors, mais par qui je suis moi-même pour de vrai ici et maintenant. L'individuation, c'est l'affirmation de qui je suis ici, maintenant. Ça semble complexe, hein? Puis,
mais, c'est pas, quand même,
c'est pas tout le monde qui va y aller.
Oui, c'est ça. Comment on fait pour en venir à ça, en éliminant toutes les influences du monde extérieur?
Jung, qui avait conçu cette...
Carl
Jung, qui a fait cette réflexion-là sur l'individuation, il l'avait positionné dans la crise du mi-temps de la vie. Donc, dans la fameuse crise de la quarantaine.
Oui!
Ça prend une crise identitaire pour faire de l'individuation, pour dire, je ne suis pas seulement ce qu'on me dit que j'étais. Je ne suis pas seulement mes modèles, mes mentors. Je ne suis pas seulement un rôle de famille. Je suis moi. Qui suis-je? Et ça prend une crise bien souvent. Puis il y a plein de gens qui viennent en thérapie pour faire ce cheminement-là.
OK.
Je ne sais pas ce que je suis. Je ne sais pas ce que j'aime. Puis c'est tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils ne sont pas bien.
Ça, c'est beaucoup vers la quarantaine, cinquantaine, dans le
c'est
U.
Ça.
Parce qu'on dit que l'échelle du bonheur sera en forme de U et le plus creux serait autour de 40 à 50 ans. Semble-t-il. Donc c'est dans ce coin-là là, que les gens vivent vraiment une réelle crise à quarantaine et ont envie d'essayer de nouvelles choses. Puis il y a aussi, là, j'en reviens aux maudites hormones, docteur Jean Drouin disait, si vous êtes en couple depuis longtemps puis que ça se passait bien puis que là, dans la quarantaine, la cinquantaine, vous vous tapez ses nerfs, ça va plus, vous avez envie d'y arracher la tête, vous la trouvez impatiente, t'as plus de libido, blablabla, séparez-vous pas. Allez consulter, allez vous assurer que vos hormones sont correctes. Avant de faire quoi que ce soit. Parce que juste de doser ça, ça pourrait sauver des couples. C'est fou, là.
Bien sûr.
Puis, c'est ça. Donc, au creux là, du U, finalement, là où il y a la crise de quarantaine, c'est vraiment là qu'on pourrait, c'est ça, vivre une espèce de crise qui est pas mal en soi, en fait. Parce que
c'est ça. Il y a plein de facteurs sociaux aussi qui nous amènent à être fragiles au détour de ça.
Mais il y a l'horloge sociale, on dirait que si, selon l'horloge sociale, t'es rendu là et que t'as pas ça d'acquis ou de créé, bien là, ça te met une énorme pression puis t'as juste envie de tout foutre en l'air, tu sais, puis de changer la vie que t'as en ce moment.
Oui.
Mais la crise, la quarantaine ou de la cinquantaine, c'est pas mauvais en soi, je pense.
Non, je pense que c'est une crise, personne n'aurait vraiment envie de vivre ça parce que ça va changer vite. C'est comme une révolution, là. Il y a des têtes qui se coupent et du monde qui se pendent, hein, mais ça change vite. Mais une crise, si c'est bien encadré et c'est protégé, ça va faciliter le changement. Parce que la crise interdit le fait de se maintenir comme avant. C'est plus vrai qu'on va rester comme on était. Grâce à la crise, le mouvement se passe.
Très intéressant.
Il y a des gens qui vont être dans le deuil d'avoir brisé un miroir. Puis il y a d'autres personnes qui vont, du miroir brisé, composer une sculpture qui vaut encore plus cher que le miroir d'origine. Ils viennent de créer de la valeur avec quelque chose que quelqu'un considérait un déchet maintenant. Ben, c'est un peu à l'image de résoudre d'une crise identitaire. C'est recomposer les morceaux du miroir en une sculpture précieuse qui me ressemble.
Et là, on parle vraiment d'identité, puis de personnel, ben, d'identité plutôt, là, mais... Qu'est-ce qu'on fait des blessures et des blessures d'enfance et les styles d'attachement et tout ça, est-ce que ça se rejoint là-dedans à quelque part? Ou...
Ben oui, c'est sûr, parce que ça va teinter notre rapport au monde affectif, à l'affirmation, à notre négociation dans le monde, la place qu'on s'accorde. C'est quelque chose qu'on travaille beaucoup ça, dans les thérapies de groupe, parce que la dynamique de groupe interdit quasiment d'avoir des mécanismes de défense qui nous bloquent. Là, ça fait tout remonter. Là. Puis avec des techniques d'impact, des jeux de rôle thérapeutiques, ça fait remonter le vrai enjeu que tu as besoin de travailler. Et non pas celui que tu voulais travailler.
Donc,
c'est très extrêmement exigeant, ça, une thérapie de groupe dans l'action.
En fait, souvent, les thérapies de groupe...
Là, je n'ai pas refait depuis la COVID.
Ah, OK.
Mais le bureau, il est prêt.
Mais là, quand tu fais une thérapie de groupe, tu as un thème ou tout le monde vient...
Ouais, ben, des fois, je fais des journées d'introduction
okay.
dans lesquelles ça va tous être des gens qui vont explorer pour la première fois cette dynamique-là. Puis ce qui est difficile aujourd'hui, c'est faire collaborer ensemble les agendas des gens.
Oui.
C'est dur de rassembler 6 à 12 personnes.
Puis de faire ça virtuel. Place,
non, c'est tout ça, tough, hein? En personne.
Ouais. OK. Et là, bon, dans thérapie de groupe, mettons là, que quelqu'un y va pour gérer son anxiété, l'autre y va pour gérer sa jalousie. C'est ça, dans le fond, c'est des gens qui...
Oui, bien, il y a deux formes de thérapie de groupe, ce qu'on appelle les groupes homogènes puis les groupes hétérogènes. Donc, un groupe de thérapie de groupe homogène, ce serait tous des gens qui ont la même problématique. Mais bien souvent, ça va ressembler plus à de l'éducation psychologique. C'est comme une thérapie, des thérapies individuelles en groupe. Alors que la thérapie de groupe, moi, je préfère que ce soit avec des gens hétérogènes. C'est que toutes des problématiques différentes qui vont refléter davantage le fonctionnement de la vie quotidienne de la personne. Puis là,
ça
on va travailler
nous faire
des
réaliser
enjeux
des
incroyables.
Trucs. Mais oui.
Fait que moi, je fais un dépistage au début dans mes groupes là-dessus. J'essaie de ne pas faire en sorte qu'il y ait tous les gens de la même blessure. Puis qu'il n'y ait pas non plus une personne qui soit positionnée en victime des autres. Là. Comme par exemple, si je sais que j'ai 6 grands affirmateurs, je ne vais pas mettre une personne hyper gênée là-dedans.
Ils viennent un peu hijacker le propos.
C'est sûr qu'il va se faire réduire ou ramasser par les 5 autres. Fait que ça prend un regard critique très, très aiguisé pour protéger tout le monde là-dedans.
Et tu m'as déjà parlé que tu voulais faire éventuellement un week-end, je pense, de groupe, mais de couple.
Oui.
Est-ce que tu cherches des couples pour faire ça? Ou
mais
ça. Oui.
Ouais, j'ai plein de projets par rapport au groupe de couple.
Oui.
J'en ai notamment un qui serait un format plus filmé, là, qu'on pourrait diffuser aussi sur le web après.
Oui.
Une espèce de docu-réalité où je proposerais aux gens de faire les exercices, je leur donnerais un guide de travail, d'activité conjugale, puis là, on ferait tout ça filmé ensemble, puis on le diffuserait pour la santé de la population. Ça serait incroyable.
Ouais.
Mais avant de le filmer, on va peut-être l'essayer avec des couples.
Dans l'intimité.
Dans l'intimité,
oui.
Puis on va comme se brasser là, les meilleurs des exercices.
Donc, est-ce qu'on dirait qu'on a fait le tour pour la construction d'identité? Parce que moi, j'irais ailleurs.
Oui, parfait.
On en a parlé, nous, hors d'onde. Les gens qui sont attirés par des gens qui ont de l'argent.
Oui.
Qu'est-ce qui peut causer ça? En fait, qu'est-ce qui peut pousser une personne qui n'a pas un gros travail ou un statut X, là, disons, à être attiré par quelqu'un qui fait de l'argent. En réalité, la personne, c'est quoi? C'est de la lâcheté, puis elle souhaite se faire vivre par l'autre personne.
Oh mon Dieu, t'es donc bien sévère.
Ben là, non, mais on dirait que j'arrive pas à comprendre. Parce qu'il y en a, là, il y en a des célibataires que ça fait partie de leurs critères, choses qu'ils sont même pas capables d'offrir eux-mêmes.
Ben oui.
Moi, je veux quelqu'un qui a de l'argent.
Oui.
La fille m'écrit ça. Je veux quelqu'un qui a de l'argent. OK, t'en as-tu? Tu sais?
Non, c'est ça. C'est parce que là, tu confonds, on pourrait dire, les critères de l'amour avec les critères de l'attirance.
Oh!
On pourrait dire que dans les critères de l'amour, je veux de la réciprocité. Je veux quelqu'un qui me ressemble pour qu'on partage le quotidien ensemble de manière égalitaire.
Oui.
C'est de l'amour.
Oui.
Mais c'est pas un critère d'attirance. Dans les critères d'attirance... qui génère là, du « ouh » qui allume au début. Là.
C'est ce qu'on n'a pas.
Il y a en effet la présence d'un haut statut social. Puis l'argent,
mais
c'est un symbole.
Mais haut statut social ne vient pas nécessairement avec l'argent, non?
Non, non, c'est pour ça que je te dis que les études ont démontré que ce n'est pas forcément envers l'argent que les gens sont attirés.
Ah.
C'est ce en quoi l'argent permet de faire. Donc, c'est les gens qui ont un certain statut dans un groupe qui sont porteurs de ce pouvoir-là. Et dans ce pouvoir-là, il y a notamment l'argent, mais pas que.
Je comprends.
On pourrait dire que le roi du skatepark, il y a plus de pouvoir de séduction avec les filles du skatepark que l'avocat millionnaire qui arrive au skatepark avec son chemise-cravate.
Je comprends.
Mm-hmm.
Oh.
C'est la gestion du statut qui symbolise le pouvoir et l'argent, c'est un vecteur qui... souvent représentent des opportunités de pouvoir.
Ouais, puis l'argent, je pense que encore aujourd'hui, puis depuis toujours probablement, là, c'est le seul outil d'émancipation qu'on a vraiment. C'est le seul outil qui nous permet de faire ce qu'on veut puis d'atteindre une certaine liberté dans le monde dans lequel on vit. Ouais.
Ben ça dépend là. Ça dépend de tes valeurs puis ça dépend de comment. Tu sais, je veux dire, moi, je pense qu'il y a de plus en plus de gens comme ça qui vont à la déconsommation des trucs comme ça. Mais moi, marcher dans le bois. Il n'y a rien qui peut me rapporter autant de bonheur. Là. Je veux dire, je n'irai pas à l'hôtel pendant une semaine versus aller dans la nature. Tu comprends?
Ouais.
Non, je le sais, mais...
Ou tu sais, d'émancipation matérielle.
De matériel, mais aussi, tu sais, peu importe ta passion, peu importe ce que tu as envie de faire dans la vie, ça va toujours te prendre des fonds. Fait que tu veux bien être en mode décroissance, pas aller marcher dans le bois, mais si tu as besoin de pinceaux pour peindre, puis tu n'as pas assez d'argent,
tu acheter des pinceaux. Ah non, c'est ça, ça prend un minimum, absolument. Mais...
Puis la création de ton identité passe par la peinture, par exemple.
Oui, oui, absolument.
Qu'on veuille ou non, ça a toujours un lien.
Mais, tu sais, je veux dire,
c'est un peu la pierre angulaire de tout, je pense.
Ça prend un minimum, mais de là à être attiré par quelqu'un qui fait de l'argent. Et de...
Pourquoi pas? Chaque personne a ses préférences.
Mais oui, je sais, c'est ça. Mais je tente de comprendre le derrière. Tu sais, la personne, est-ce qu'elle va être vraiment attirée par l'humain ou par personne, qu'il possède?
C'est ça, chaque personne a ses préférences, mais c'est pas, pour en revenir à la question que tu posais tantôt, mais c'est pas malsain de convoiter une personne pour ce qu'elle peut nous amener plus que ce qu'elle est réellement?
Non, je pense que vous présentez une vision très idéalisée de ce que ça devrait être.
On pose la question.
Parce qu'en réalité, les facteurs d'attirance peuvent être très amoraux.
Ah!
Il y a des gens qui sont attirés par des trucs qui, comme je disais tout à l'heure, qui les dégoûtent moralement, mais ça les turn on quand même vraiment beaucoup. J'avais des collègues d'université, moi, qui disaient ça. Hein, qui disaient, moi, dans la vie de tous les jours, je suis militante féministe, mais dans ma vie personnelle, parle-moi pas de ça d'un homme sensible, je veux rien savoir. Là, c'est rough, là. Je me disais, mais mon Dieu, ça se peut-tu?
Ben, ça rejoint un peu ce que je disais tantôt, tu sais, la fille qui aime
ça,
se faire traiter de...
C'est ça. C'était pas mal la même histoire.
Mmh.
C'est parce qu'on est porteur de contradictions en nous-mêmes.
Ouais.
Puis quelqu'un qui nierait être porteur de contradictions, moi, je serais plus méfiant envers cette personne-là que quelqu'un qui dirait, ouais, ben, tu sais quoi, je sais pas trop aussi que je suis rendu là-dedans. Là. On dirait qu'il y a quelque chose qui m'attire que je devrais pas, ou c'est-tu correct? Puis là, on ouvre la communication.
Très intéressant. Docteur Simard, on peut te rejoindre de quelle façon?
Ben, si les gens veulent me rejoindre pour prendre rendez-vous ou voir mes différentes offres de services, ils ont juste à taper sur le web Dr Paul Simard psychologue. Mes coordonnées sont partout. Je vais vous envoyer tous les détails reliés à la prise de rendez-vous. Dr Paul Simard psychologue.
Dr Paul Simard psychologue, lasexploratrice.com, lasexploratrice en commercial, radiox.com. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions. Demain, on reçoit d'ailleurs Olénie Pelletier.
Oh yeah.
Coach relationnel PNL que tu connais bien.
Je la vois vendredi.
C'est vrai,
on
pour
fait
un podcast.
Podcast à Montréal, oui.
Oh, avec Mme Myriam?
Oui.
Ah, c'est super. D'ailleurs, je suis allée au podcast de Mme Myriam. Allez voir ça aussi, là, Mme Myriam. Liberté d'être. Un podcast très intéressant à écouter, auquel Dr Simard a participé quand même souvent. Max, toujours un plaisir de travailler à tes côtés.
Pareillement, man.
Toujours un plaisir de vous savoir en si grand nombre via le live Radio X, mais également via le live TikTok. Et merci à notre modératrice. C'est toujours un plaisir. Abonnez-vous à la page de TikTok de Choix 98.1 Radio X. Vous étiez à l'écoute de la sexploratrice sur les ondes de Choix 98.1 Radio X.
La sexploratrice.
Avec Mel Trudel. Radio X.